Les questions de Sophie. Voici Sophie Stanquet.
Mesdames, messieurs, bienvenue aux questions de Sophie. Aujourd'hui, on va se poser des questions sur nos finances. Comment on est avec notre rapport avec l'argent? Est-ce qu'on peut mieux faire? C'est aussi difficile parfois que d'aller chez le dentiste, hein, vous allez me dire. Quand arrivent les impôts, on ne sait pas ce qui se passe. Souvent, il y a des gens qui arrivent avec leur boîte de chaussures, puis leur facture, puis ils ne posent aucune question. Il faut se responsabiliser. Il y a beaucoup d'événements dans nos vies où on doit dépenser, notamment les fêtes qui arrivent. Est-ce qu'on dépense bien? Est-ce qu'on a un rapport très sain? Est-ce qu'on ne vit pas au-dessus de nos moyens? Alors, on aura plusieurs personnes ici, spécialistes, qui vont répondre à toutes vos questions, mesdames, messieurs. Vous pouvez toujours nous écrire. Il y a Claudia Benoît qui est en studio, qui prend les commentaires sur Twitter ou sur Facebook, donc à Canal M. Et puis, pendant 60 minutes, on pourra les lire. Et si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Il y aura des spécialistes pour y répondre. Sylvie de Bellefeuille, responsable par intérim du service budgétaire et juridique d'options consommateurs, sera avec nous dans quelques instants. Nous aurons également Jonathan Vandal, président directeur général de chez Finance Handicap, services fiscaux. Et puis, on parlera des femmes, parce que souvent, ben, encore aujourd'hui, en 2014, celles qui sont à la maison, souvent, il y en a certaines qui ont tout le budget familial. Et ça, c'est vrai, plus vrai que jamais. Les femmes monoparentales, c'est aussi elles qui gèrent la maison, qui gèrent tout l'extérieur. Et donc, c'est très intéressant, un dossier à suivre avec Marielle Boyer, formatrice en fonds d'emprunt. Dès Laurentide sera parmi nous. Et nous aurons Céline Orvoine, responsable des communications de la CEF de la Naudière. Alors, tout ça à notre émission. On parlera également, j'ai oublié, la FADOC, bien sûr, tous les segments de notre finance personnelle des aînés, Dany Prudhomme, directeur général de la FADOC. Voilà. Alors justement, elle est avec nous, c'est Sylvie de Bellefeuille, responsable par intérim du service budgétaire et juridique d'options consommateurs. Bonjour Madame Bellefeuille.
Bonjour.
Alors c'est le mois de la littératie financière. C'est quelque chose pour vous? Est-ce que c'est vraiment un domaine au niveau d'options consommateurs où les gens posent des questions sans arrêt par rapport avec l'argent?
Oui. Il y a beaucoup de questions par rapport à l'argent, par rapport au budget, par rapport au crédit. Puis quand on parle de littératie financière, en fait, c'est de savoir est-ce qu'on a toutes les connaissances, est-ce qu'on a toutes les habiletés, est-ce qu'on a assez confiance en soi pour pouvoir prendre des décisions qui sont éclairées en matière de finances personnelles. Donc, c'est vraiment ça qu'on parle quand on parle de littératie financière. Mm-hmm. Et c'est de ça là c'est un clou sur lequel il faut taper parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas toutes les connaissances qu'ils auraient besoin pour prendre toutes les bonnes décisions.
Et justement, est-ce que vous trouvez qu'il y en a assez de littératie financière en ce moment? Est-ce qu'on en parle assez? Est-ce qu'on en lit assez?
Bien, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup d'institutions, même des institutions financières qui ont des belles initiatives en matière de littératie financière. Mais la question de base aussi, c'est que c'est quelque chose qui doit se faire jeune. Ça ne s'enseigne plus à l'école. C'est un des problèmes.
Oui, ce qui est dommage, paraît-il que nos parents nous parlaient de ça, c'est qu'à l'école, il y avait justement des cours de budget, je pense que ça ne s'appelait pas comme ça, mais on apprenait à faire un budget familial, on montrait ces choses-là.
Absolument. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, c'est le travail des parents. C'est le travail, et souvent, quand même, comme parents, des fois, on peut avoir pas toujours toutes les bonnes informations. On n'a pas toujours tous des bonnes habitudes budgétaires aussi. Donc, ça se transmet de génération en génération. Mm-hmm. Donc, c'est un défi là qu'on a par rapport à tout ça. Là.
Alors, donc, c'est un mois justement pour en parler. Parlons-en. Quels sont les domaines où les consommateurs sont le moins informés?
Je vous dirais, il y a plusieurs choses. D'une part, en matière de crédit. On parle parfois de questions qui peuvent sembler très, très simples, mais qui ne le sont pas tant que ça. Quand on parle de la carte de crédit, par exemple, comment ça fonctionne, comment les intérêts sont calculés, Nous, quand on donne des séances d'information sur le sujet, qu'on explique comment fonctionnent les cartes de crédit, je peux vous dire qu'à peu près la moitié, sinon le trois quarts des gens dans le groupe, habituellement, qui tombent en bas de leur chaise. Donc, ça reste quelque chose qui est assez compliqué. Puis quand on parle des produits financiers, on remarque de façon plus générale qu'il y a une diversité des produits financiers qui sont disponibles sur le marché. Il y a une complexité aussi qui est là. Et plus ça va, plus on a des produits qui sont complexes. On va avoir des produits qui vont viser des clientèles de niche. Mais les gens n'ont peut-être pas toujours toutes les connaissances suffisantes pour pouvoir prendre vraiment la bonne décision par rapport à leur situation.
Alors, on va revenir justement avec la carte de crédit. Quels sont les pièges? On n'a jamais eu de carte de crédit, la première chose à faire, est-ce qu'on magasine chez nous? On regarde quoi en premier? Avec qui? Est-ce qu'on regarde l'institution financière? Quels sont les pièges pour la carte de crédit?
Bien, je vous dirais, au niveau des conditions des cartes de crédit, pour les cartes de crédit de base, ça se ressemble beaucoup là, d'une institution financière à l'autre. Je vous dirais, celles qui sont les plus coûteuses habituellement sont celles des grandes chaînes de magasins où on va avoir des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés. Mais je vous dirais, c'est vraiment sur la question du fonctionnement de la carte de crédit que ça pose problème. Parce que beaucoup de gens ne savent pas comment les intérêts sont calculés et ça peut aller très, très vite. Parce que quand on a une carte de crédit, à partir du moment quand on fait des achats, à partir du moment qu'on paie l'intégralité, je dis bien l'intégralité au sous-près de nos achats avant la date d'échéance, on ne paye pas d'intérêt.
On est correct, c'est ça.
Exactement.
Donc, on peut se dire qu'on a 23 jours parce que je pense que le 30 jours, c'est trop tard, c'est à peu près 23 jours?
En fait, la loi prévoit un délai minimal de 21 jours. Ah, donc, quand on envoie le relevé de compte, c'est un délai minimal de 21 jours. Dans les faits, je vous dirais, compte tenu de la période de facturation, on a un peu plus que 21 jours pour pouvoir payer notre carte. Là.
Alors, on est correct. Si on paye avant, par exemple, on a dépensé 200 $ puis on se dit, je ne vais pas attendre dans 21 jours ou 23 jours ou 30 jours avant de payer. Là, on ne paye aucun intérêt.
Exactement. Donc, à partir du moment que je reçois mon compte, si je paie avant la date d'échéance, là, je dis bien que c'est pour les achats, hein, ça vise pas les avances de fonds. Donc, à partir du moment que c'est des achats, si je paie l'intégralité, je ne paye pas d'intérêt. Okay. Par contre, au niveau du contrat, ce que je dois faire, c'est payer le paiement minimum. Alors, à partir du moment que je paye le paiement minimum, oui, je remplis mes obligations au niveau de mon contrat, mais c'est là que le jeu des intérêts embarque et ça va très, très vite.
Alors, le jeu des intérêts, on regarde, c'est toujours évidemment écrit en petit, là, sur notre relevé. On regarde dans le coin pour savoir le pourcentage. Là, vous disiez tout à l'heure que les cartes de crédit les plus élevées, j'ai vu du 25% dans certaines chaînes dont je tairai le nom. Au niveau des cartes de crédit, ça oscille entre combien et combien?
Ça dépend des cartes. On peut avoir des cartes à taux réduit avec des taux d'intérêt qui vont être autour là, de, je vous dirais, plus ou moins là, 12-14%. Là, ça dépend vraiment des institutions financières. Pour ce qui est des cartes, mais ça, souvent, c'est avec des frais annuels. Sinon, je vous dirais, le taux à la mode sur la plupart des cartes de crédit, c'est de 19,9% d'intérêt. C'est ce qu'on va retrouver le plus souvent. Mais dans le cas des grandes chaînes, vous avez parlé de 25%. J'ai déjà vu des cartes à 29,9% aussi. Là. Donc, et le fonctionnement est le même, c'est juste que le taux d'intérêt est plus élevé. Là.
Est-ce qu'on peut, avant de quitter une institution financière ou une carte de crédit, négocier comme ça se fait dans d'autres domaines, c'est-à-dire parler, par exemple, à une responsable d'une grande carte de crédit, lui dire, voilà, moi, je trouve qu'en ce moment, j'ai un 12% et si je m'en vais ailleurs, on me donne un 7%. Est-ce que ça se fait?
Très peu. C'est-à-dire que ce qu'on va pouvoir magasiner, souvent, ça va être les taux réduits, justement, avec des frais annuels. Mais vous n'aurez pas des cartes à 7 %. Il existe parfois des promotions où pendant 6 mois, on va vous dire, sur vos achats, vos transferts de fonds pour les premiers 6 mois, on va vous donner du 1 % d'intérêt. Mais c'est seulement pour une très, très courte période. Puis ensuite, on retombe dans les taux d'intérêt habituels. Donc, je vous dirais, quand on va négocier, c'est beaucoup plus pour avoir accès à une carte à taux réduit, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe en bas là, de 12 %. Là.
Alors, maintenant, au niveau des jeunes, j'ai vu souvent dans les journaux, ça fait les manchettes, que ces institutions, les gens ont à peine 18 ans, on leur envoie un formulaire de carte de crédit. C'est au niveau de la consommation, c'est bonjour le début des dettes, là.
Oui, c'est quelque chose qu'on dénonce, la publicité sur le crédit, c'est très courant, malheureusement. Et là encore, souvent, le problème, c'est que beaucoup de personnes voient la carte de crédit comme étant de l'argent disponible, c'est de l'argent rapide, mais c'est de l'argent qui est coûteuse.
Et les intérêts aussi sont élevés, j'imagine. Une première carte de crédit, c'est quelque chose. Et aussi, tous les 3 mois, il arrive souvent que les consommateurs reçoivent vous avez bien dépensé, on vous donne 5 000, 6 000, 7 000, c'est assez tentant, ça. Il n'y a toujours pas de loi pour annuler tout ça. C'est quand même tentant.
C'est tentant. En fait, là où la loi a changé, c'est qu'il y a une période où les banques le faisaient de façon unilatérale. Donc, vous êtes un bon client et à moins que vous nous disiez le contraire, on allait augmenter votre marge de crédit, votre limite de crédit plutôt. Maintenant, ils ne le font plus, ils n'ont plus le droit de le faire. Cependant, elles offrent constamment, à partir du moment que vous remplissez bien vos obligations, ben vous êtes un bon client, donc on vous offre la possibilité de vous endetter davantage. Donc, il faut vraiment être prudent, parce que c'est pas parce que la banque considère que je peux m'endetter d'une somme supplémentaire de 5 000 $ que réellement je suis capable de le faire dans mon budget, là. Donc, il faut être vraiment prudent avec ça.
Alors, prudence, comment on pourrait faire en sorte que les gens soient mieux informés, justement, avec les cartes de crédit, avec les différents endroits où ils peuvent aller chercher des services financiers, investir et tout ça? On a l'impression que c'est pas évident.
Bien, effectivement, c'est pas évident. Je vous dirais, chez Option Consommateur, puis dans l'ensemble des ACF, il y a beaucoup de travail qui se fait justement au niveau de la sensibilisation pour ça, pour amener les gens à comprendre comment ça fonctionne. L'idée, c'est pas de démoniser le crédit, parce qu'une carte de crédit, ça peut être quelque chose qui est très utile quand c'est bien utilisé. Mais le problème, c'est quand on a quand c'est mal utilisé, c'est là que on rentre facilement dans un cercle vicieux. Donc, d'aller chercher de l'information, autant que possible de l'information neutre. Donc, les ACF souvent peuvent donner de l'information justement qui est très, très neutre. Pour au moins savoir comment ça fonctionne, puis à partir de là, on peut prendre des meilleures décisions.
Dans notre portefeuille, on devrait avoir combien de cartes pour être bien responsable?
Ben, je vous dirais, normalement, une, c'est suffisant.
Parfait. Ça, c'est l'idéal.
Et ce serait l'idéal, tout à fait.
Puis surtout pas en prendre une autre pour en payer une.
Non, quand on est rendu là, habituellement, c'est parce qu'on est dans un cercle qui est encore pire.
Oui, oui. Merci beaucoup, Mme Bellefeuille.
Ça fait plaisir.
Merci.
Chez mon barbier pour faire teindre mes cheveux, ça coûte de l'argent. L'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. L'argent. L'argent fait le bonheur. L'argent.
Vraiment.
Je vais au magasin pour m'acheter des l'argent. Je veux manger des bananes, manger des dîners. ça monte et ça monte. Pour toi c'est la fin du monde. Faut que l'argent, l'argent fait le bonheur. Mais quand tu en auras plus, t'auras manqué l'autobus. C'est comme tout est gugus, t'auras perdu tout ton temps.
Les respectables, mesdames, messieurs, tout à fait une chanson pour notre thème d'aujourd'hui. Savez-vous bien gérer vos finances? Pas toujours évident, ça. Hein? On dirait que l'argent, chaque fois, c'est pas évident. Faut mettre ça sur papier, faut se faire un budget, faut faire confiance aux gens. Alors, pour nous parler du segment finances personnelles et limitations fonctionnelles, Jonathan Vandal, il est président directeur général de chez Finhandicap Services Fiscaux. Bonjour, Monsieur Vandal.
Bonjour, Madame Stanquet.
Quand je disais que c'était pas évident, l'argent, de financer, de savoir ce qui se passe, d'avoir les programmes, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous trouvez que c'est difficile?
Je pense qu'en général, c'est un domaine... pour ma part, j'ai une formation, donc ça peut m'apparaître simple, mais si on pense au quotidien des gens, c'est souvent pas une priorité par rapport à tout ce qui se passe le reste de notre vie. Donc souvent, on met ça de côté un peu.
Oui. Et
donc c'est peut-être là qu'est le vrai problème. Puis effectivement, il faut s'en occuper.
Il faut s'en occuper parce que sinon, ça nous rattrape.
Oui.
Comme on dit. Alors, dans un domaine, c'est pas évident parce que j'ai eu l'occasion de faire une émission sur, évidemment, quand il y a les impôts, et j'avais un invité qui avait vraiment votre profil et qui nous a mis au courant de toutes les subventions que les gens qui avaient une limitation fonctionnelle avaient le droit. Et le téléphone a sonné, on a eu des gens qui nous ont remerciés parce qu'ils pouvaient récupérer des 10 000, des 15 000, des 20 000 dollars parce qu'ils ne le savaient pas. Et dans ce domaine-là, il faut que quelqu'un connaisse tous les programmes et il y en a beaucoup. Alors, pourquoi ces gens-là sont mal renseignés sur ces mesures-là auxquelles ils ont droit?
Bien, d'une part, il y a beaucoup de mesures, ne s'appliquent pas à tous. Par contre, une autre chose qui est très complexe dans tout ça, c'est l'interaction de ces mesures-là. Donc, souvent, c'est difficile de comprendre si je reçois quelque chose, est-ce que je vais me faire couper autre chose ou toutes ces choses-là. Donc, il faut faire attention. Puis quand on fait des choix en finance, c'est la même chose. Mm-hmm. Donc, d'une part, ce à quoi vous semblez faire référence, ce sont probablement certains crédits d'impôt qui sont souvent méconnus. Hein. Je pense que l'impôt pour tout le monde, c'est souvent une boîte noire. Soit on a un comptable ou des fois, on réussit à les faire nous-mêmes avec de petits logiciels. Par contre, c'est pas un gage de succès nécessairement. Et là, maintenant, est-ce que ces mesures-là sont... Il y a une bonne promotion autour d'elles? C'est une autre chose qu'on peut se questionner.
Alors, parlez-moi de votre organisme avant, puis après, on ira. Parce que moi, je me sens comme la mère Noël à chaque fois, là. Parce qu'il y a des gens qui écoutent puis qui nous disent, Sophie, merci d'en avoir parlé, parce que j'étais pas au courant que j'avais le droit à ci et ça. Mais alors, donc, on va aller après dans ces questions-là. Dites-moi, votre organisme, qu'est-ce qu'il fait, qui il sert et tout ça.
Bien, effectivement, je les comprends parce que j'étais un peu parmi eux, sans être une personne qui a une limitation moi-même, c'est dans ma famille. Et un jour, je me suis mis à chercher qu'est-ce qui pouvait m'aider. Puis effectivement, c'est assez difficile. Donc, je me suis dit, pourquoi il n'y a pas des gens qui nous aident simplement? Donc, Finhandicap, le cabinet de services financiers qui est avec Finhandicap Services Fiscaux, c'est ça que ça fait. Donc, la journée que j'ai trouvé ça, je me suis dit « enfin », et j'ai décidé de me joindre à l'équipe, en fait, qui a été fondée par Guillaume Parent en 2010.
D'accord.
Donc, c'est un cabinet de services financiers. Donc, on parle beaucoup de certaines choses dans la finance. Donc, on parle de l'épargne, des placements, ces choses-là. Il y a des programmes de subvention à ces niveaux-là aussi. Et d'un autre côté, on a un cabinet de services fiscaux qui s'appelle Finhandicap Services Fiscaux, qui permet d'aller chercher, justement, rétroactivement beaucoup de mesures, deux principalement qui sont les plus connues. Souvent, on entend les crédits d'impôt pour personnes handicapées et les crédits pour aidants naturels. Donc ça, c'est des mots, je pense, qui sont assez bien connus. Maintenant, les concepts, peut-être moins.
OK. Alors, on va prendre une personne en particulier qui serait à mobilité réduite depuis... on va prendre une depuis peu et qui commence à aller là-dedans, faire... à la fin du mois de décembre, va faire ses impôts et tout ça, cette personne-là a droit à quoi?
Une personne qui est à mobilité réduite, si elle a un emploi, va pouvoir bénéficier de crédits, si elle est adulte, évidemment, là, de crédits qui sont, pour personnes handicapées, qui sont non remboursables. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'il faut avoir faut avoir payé un certain montant d'impôts pour venir le réduire par la suite. Donc ça, c'est la situation la plus simple. Donc la personne doit spécifier qu'elle l'est. Donc d'une part, elle doit se faire reconnaître comme personne handicapée. Mm-hmm. Donc il y a un formulaire à remplir qui doit être signé par un praticien qualifié.
Praticien, ça voulait dire un avocat ou pas forcément?
Souvent, on fait référence à un médecin. Donc, c'est un peu plus large que médecin.
OK.
Donc, un praticien qualifié, c'est pour attester de la condition de la personne.
OK. Donc, ça peut être son médecin de famille?
Ça pourrait être son médecin de famille. Ça pourrait être, dans le cas d'autres handicaps, ça pourrait être un psychologue. Donc, il y a ce qui est reconnaissant. Mais en général, gardons l'image du médecin.
Parfait. Qui est assez simple. Le médecin, donc ce formulaire en premier.
Oui. Donc, ce formulaire-là, normalement, le médecin pourra en attester et ce sera à faire, si la condition est permanente, qu'une seule fois. Et si la condition peut évoluer, là, il y aura peut-être autre chose à faire dans l'avenir.
OK. Par la suite, elle a le droit à quoi?
Par la suite, elle doit préparer sa déclaration d'impôt. Autant au fédéral qu'au provincial, mm-hmm. elle aura droit à un crédit. Donc, okay. au fédéral, on va parler d'un montant qui va avoisiner les 1 000 et environ 500 $ au provincial.
OK. Qu'est-ce que le régime enregistré d'épargne invalidité?
Donc là, on tombe dans ce qui est de la finance. Donc là, on sort de la fiscalité ou de l'impôt. Là. Donc, on n'est plus dans la préparation, on va dire, au mois de mars à avril de notre déclaration d'impôt. On est dans notre épargne. Donc, on pourrait faire un parallèle soit avec le REER, que beaucoup de gens connaissent, ou peut-être plus proche, le REE, donc le régime enregistré d'épargne études.
C'est ça.
Donc, c'est une façon de mettre de l'argent de côté, d'épargner, mais où le gouvernement va nous aider.
OK.
Donc, qu'est-ce qui permet d'avoir accès au REI? C'est justement cette fameuse signature d'un praticien qualifié, là, du médecin. Donc, le même accès au crédit d'impôt va par la suite nous donner accès à ce merveilleux programme qui est le REI.
Et ça, les comptables, en général, pas tous les comptables le savent. Hein?
Non, parce qu'effectivement, la finance, c'est pas un domaine qui est le principal adage du comptable. Donc, le comptable va préparer les déclarations d'impôts, va être capable de vous aider à ce niveau-là. Par contre, quand on s'en va du côté de la finance, on va plus chercher des représentants, par exemple, d'émetteurs, soit des grandes banques ou des gens qui travaillent de façon indépendante, comme des représentants d'épargne collective ou des conseillers en sécurité financière. Donc, celui qui vous parle de vos assurances ou de vos REER. Donc, soit vous allez en succursale ou vous avez quelqu'un qui vous conseille. C'est plus à ce niveau-là qu'on peut avoir de l'information pour le REI.
Alors, au niveau des enfants, moi, j'aurais un enfant qui serait à mobilité réduite. J'ai le droit à quoi pour mon enfant?
Là, c'est un peu différent.
Oui, c'est ça.
Et c'est différent au fédéral et au provincial. Évidemment, on est au Québec, donc on prépare autant de déclarations d'impôts fédérales que provinciales. Mm-hmm. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au provincial, ça ne se passe pas dans la déclaration d'impôts. Ça se passe au niveau des allocations familiales. Donc ça, c'est souvent fait si c'est de naissance à l'hôpital et ça se passe par la Régie des rentes du Québec.
Okay.
Donc, et non pas par Revenu Québec. Puis il faut retenir que tous ces organismes-là, qu'ils soient du même palier gouvernemental ou pas, en général, ce sont des concepts différents mm-hmm. et surtout, ils ne partagent pas de l'information. Ils ne peuvent pas partager de l'information, c'est bien normal. Donc là, les gens nous disent souvent, « Oui, mais je l'ai déjà. » Oui, vous l'avez peut-être au niveau de l'Agence du revenu du Canada, mais pas nécessairement au niveau de la Régie des rentes ou de Revenu Québec.
Parce qu'ils ne se parlent pas.
Ils ne se parlent pas. C'est donc, il faut s'assurer mm-hmm. de soumettre les bons documents pour obtenir ce à quoi on a droit.
Au niveau des proches aidants, vous en avez parlé au début de l'entrevue, vous en occupez. Souvent, les gens disent, moi, j'ai le droit à rien du tout, ils ne sont pas au courant. Est-ce que, justement, ils ont droit à quelque chose?
Les proches aidants, là, c'est un autre concept. Il y a différentes personnes qui, évidemment, on ne va pas remettre en question le fait qu'ils soient proches aidants, mais qui ne sont pas nécessairement reconnus. Donc ça, c'est une part. Donc souvent, ça fait une publicité qui est assez négative par rapport à cette aide-là qui, pour certains, semble inaccessible. Donc la loi, dans le fond, considère qu'on n'est pas proche aidant d'un enfant mineur. Donc, il est normal de s'occuper de notre enfant. Puis, comme on l'a dit plus tôt, il y a des allocations familiales, il y a toutes sortes de choses qui viennent nous aider. Par contre, lorsque l'enfant devient adulte et qu'il est toujours, par exemple, à la maison et mm-hmm. dont on doit s'en occuper, par exemple, l'état mobilité réduite, là, ça change. Et là, oui, c'est accessible. Autre cas où ce n'est pas accessible, le conjoint. Donc, il est considéré normal que nous ayons à nous occuper de notre conjoint avant un certain âge. Donc, là, lorsqu'on arrive à un âge plus avancé, là, il n'est pas normal d'avoir à s'occuper autant de notre conjoint. Là, on pourrait avoir recevoir de l'aide sous forme de crédit d'impôt pour aide naturelle.
Alors, M. Vandal, quelles sont les enveloppes dont j'aurai le droit et je ne suis pas au courant? Souvent, il y a des clients qui viennent et puis qui vous disent « Ah, mais je ne savais pas », parce que comme ça, on va le dire, on va leur faire profiter en terminant.
Souvent, la situation qui est mal, dont les gens bénéficient mal de leur montant, c'est lorsqu'il y a des transferts entre personnes. C'est-à-dire que si, par exemple, je l'ai dit tantôt, c'est un crédit qu'on appelle non remboursable, donc on dit « Moi, par exemple, je vis de la solidarité sociale où j'ai très peu de revenus, 15 000 $ par année, donc je ne paie pas d'impôts, bon an, mal an, donc je ne peux pas rien récupérer. » Donc ça, c'est des situations qui peuvent se complexifier, puis c'est là qu'il faut faire appel à un professionnel. Donc là, par exemple, si on reste avec des gens, ça vaudrait la peine de consulter parce qu'il y a des mécanismes de transfert vers ces personnes-là. Donc, c'est le 1 000 de tantôt, le 500 $ au provincial, 1 000 $ au fédéral, par exemple pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Mm-hmm. Et à ça peuvent s'ajouter des montants pour aide naturelle qui peuvent aller au provincial d'environ 1 000 et le montant exact là, au fédéral m'échappe, ça tourne autour des mêmes chiffres. Donc ça, c'est par année et on peut aller jusqu'à 10 ans en arrière. Là.
C'est ça que je voulais savoir parce que si quelqu'un n'a pas fait ça, on peut réclamer jusqu'à 10 ans en arrière. Avec des, et ça, vous avez besoin de papier, vous avez besoin, qu'est-ce que vous avez besoin?
Bien, évidemment, il y aura toutes sortes de questions et de statuts à établir. Mm-hmm. Bon, par exemple,
la
résidence.
Du...
Oui, le fameux papier à la base
du docteur.
Du docteur. Mais après ça, bon, est-ce que vous avez demeuré ensemble? Est-ce que vous étiez financièrement à charge?
Okay.
Il y a différents niveaux. Donc, évidemment, si on s'occupe d'une personne, même si on ne demeure pas avec elle, il y a lieu de se questionner. Donc, et de consulter, parce que là, ça va se complexifier. C'est souvent ces cas-là qui sont mal dont les gens ne profitent pas des montants auxquels ils auraient droit, là, finalement. Là. Et sinon, la personne qui le fait pour elle-même, qui a des revenus, on va dire qu'il gagne 25 000 $ par année, en général, ces cas-là, le comptable qui n'a pas une formation particulière va bien s'en occuper. Et dès qu'on commence à parler de transfert et de situation familiale un peu plus complexe.
C'est plus compliqué, ça.
Donc, les gens qui ont quitté la maison, mais qui sont toujours assez proches, rattachés au milieu familial, on les aide financièrement. Ou sinon, des gens qui viennent rester chez nous et qu'on aide, on ne charge pas de loyer, par exemple, des choses comme ça. Là, on devient assez rapidement un aidant. Et
oui.
Donc là, effectivement, il y a des choses qui peuvent s'appliquer.
Merci beaucoup, M. Vandal. Merci.
Les questions de Sophie avec Sophie Stanquet.
On va tout de suite avec Marielle Boyer, les formatrices au Fonds d'emprunt des Laurentides. Le fonds a gagné plusieurs prix pour son guide de survie Femmes et argent. J'en parlais en introduction de l'émission. C'est vrai que même en 2014, je dis même, mesdames, messieurs, mais c'est encore les femmes qui ont souvent, le budget à gérer pour toute la famille. Vous demandez à vos amis à côté de vous, là, vous allez être surprise de voir que souvent, c'est les femmes. Le mari s'occupe de quelque chose d'autre. Puis la femme, c'est moi qui fais les finances à la maison. Même en 2014, c'est comme ça. Et pour nous en parler, Mme Boyer est là. Bonjour, Mme Boyer.
Bonjour, vous allez bien?
Ça va bien, et vous?
Oui, merci.
Alors, quand je disais que c'est... Est-ce que vous trouvez que j'ai raison dans mes propos en disant qu'encore les femmes, c'est elles qui tiennent les ficelles des budgets?
Oui, exactement. Donc, ce sont les femmes qui gèrent les budgets, puis qui voient au bon fonctionnement souvent là de la famille en ce qui concerne tous les achats, les effets scolaires, mais aussi la répartition de l'argent à travers le budget.
Oui, hein, qu'elles soient seules ou accompagnées, c'est comme ça.
Exactement.
Alors, est-ce que c'est pour ça que vous avez eu envie de créer ce guide de survie financier?
Oui, en fait, ça c'est d'une part, mais d'autre part, c'est parce qu'on voyait à quel point les femmes avaient des questions face à l'argent qui, quelquefois, pouvaient sembler banales, mais en fait, c'est des questions importantes. Donc, c'est pour ça qu'on a construit un guide qui est écrit dans un langage commun, avec des exemples concrets et près de la vie des femmes pour pouvoir donner des exemples pour économiser de l'argent, okay. pour mieux gérer son budget et pour pouvoir voir la gestion des finances d'une façon positive. C'était ça le plus important, surtout. Mm-hmm.
Alors, donc, de voir ça positivement, quelles étaient les embûches principales quand vous parlez avec les femmes? Qu'est-ce qu'elles vous disaient? Qu'est-ce qu'elles voulaient améliorer?
En fait, beaucoup au niveau de comment bien gérer le budget pour qu'il y ait des économies à la fin du mois, bien sûr. Mm-hmm. Mais surtout, ce qui était le plus, ce qu'on voyait le plus, c'est que les femmes étaient découragées par tout ce qu'elles pouvaient entendre, soit dans les guides financiers ou dans les articles, de dire, ben si j'ai pas mis tant d'argent, par exemple, pour ma retraite, qu'est-ce que je vais faire? Alors, elle voulait avoir vraiment des exemples plus concrets de la vie de tous les jours, de ce qu'elle pouvait faire. Mm-hmm. Elle, pour commencer petit à petit, à créer l'habitude, à changer leur façon de faire, à mieux s'informer au sujet des finances, sans regarder toujours là quand il est question de bourse ou de gros investissements, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans notre vie de tous les jours, mm-hmm. pour pouvoir faire un changement.
Alors, on sait très bien qu'un enfant, l'arrivée d'un enfant, ça change le monde, aussi au niveau, mais surtout au niveau financier, parce qu'on doit penser autrement et on doit penser à long terme souvent, et ça dure longtemps aussi.
Oui.
Donc, j'imagine que vous faites quelque chose au sujet des répercussions du financement au niveau de la maternité. Comment ça se passe?
Oui. En fait, le guide, il est divisé en plusieurs sections, en 8 sections, où on passe à travers de la vie d'une femme, finalement. Donc, du moment où elle doit partir aux études, on a l'achat d'une propriété, décider d'avoir un enfant, s'assurer, penser à sa retraite, ça fait beaucoup de choses. Mm-hmm. Donc, on a une section réservée à chaque étape. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que ces étapes-là ne sont pas chiffrées dans le sens qu'il n'y a pas d'âge d'indiquer là, pour chacune des étapes, parce qu'on sait que les femmes peuvent avoir des enfants jusque dans la quarantaine, mm-hmm. et on ne voulait pas mettre d'âge. Alors, vraiment, ça, c'est intéressant. Et au niveau de la maternité, par exemple, c'est quelles questions se poser lorsqu'on sait qu'on est enceinte ou on prévoit avoir un enfant. Oui. Donc, combien ça coûte avoir un enfant? Est-ce que j'ai droit à certaines prestations? Le congé maternité, ça implique quoi? Est-ce que mm-hmm. je peux quand même cotiser à mes REER? Est-ce que je peux quand même encore avoir mes assurances au niveau du travail? Alors, toutes des questions que la femme peut se poser lors de sa grossesse ou même avant d'avoir des enfants, de dire est-ce que mon logement est bien adapté? Est-ce que je vais devoir changer de voiture pour éviter qu'on se retrouve avec un budget trop serré par la suite? Donc, mm-hmm. quand on sait où on s'en va, ça nous donne une marge de manœuvre lorsqu'il arrive des petits chocs, des petits imprévus dans notre vie.
Alors, est-ce que les femmes sont plus dans le quotidien au niveau financier? Est-ce qu'elles prévoient plus à long terme ou vraiment du jour au jour le jour dans ce que vous avez pu constater?
Dans ce qu'on a pu constater, c'est vraiment au jour le jour, de voir comment on peut faire aujourd'hui, comment on va y arriver aussi le mois prochain. Par contre, à long terme, je l'ai vu moins souvent avec les femmes que j'ai rencontrées. Donc, qui se préoccupait beaucoup plus de qu'est-ce qui se passe maintenant, mm-hmm. et comment finalement je vais arriver à mes fins l'année prochaine.
Au niveau des dettes, est-ce qu'elles attendent trop longtemps avant de dire ce qui se passe, si ça va pas bien? Parce que, bon, souvent, on voit chez les hommes qu'ils vont pas le dire, ils ont eu un renvoi, ça va prendre quelques semaines. Certains vont faire même semblant de retourner au travail, ce qui est assez triste. Mais au niveau des femmes, est-ce que quand elles sont dans le rouge financièrement, elles arrivent à le dire, elles arrivent à en parler, ou ça prend du temps?
Bien, en fait, je pourrais pas vous dire exactement combien de temps ça peut prendre. Par contre, on voit que c'est un sujet qui est encore très tabou. Je rencontre plusieurs femmes et dans les rencontres, ça peut prendre sur une rencontre d'une heure un bon 30-35 minutes avant que la femme s'ouvre et commence à parler. Donc, on voit que c'est pas des sujets qui sont faciles et ce n'est pas des sujets qui sont discutés en famille et ce n'est pas des sujets qui sont discutés souvent au niveau des amis, des cercles d'amis. Pourtant, lorsqu'on le fait, on s'aperçoit que il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes situations que nous, on peut s'entraider et c'est là où le niveau d'angoisse et de stress par rapport à l'argent va diminuer. Donc, c'est ce qu'on veut amener aussi. Donc, avec notre guide, on a aussi des formations et aussi des moments propices à ce que les femmes puissent ensemble discuter de ce qui se passe, puis de façon d'y arriver, puis de trouver de nouvelles façons de fonctionner finalement pour réduire le stress et l'angoisse face aux finances.
Est-ce que la pression passée n'est pas trop forte pour elles? Justement, on disait toutes les deux, et vous l'avez confirmé, je suis contente, qu'elles ont encore toutes les finances sur leur dos. Est-ce qu'au niveau de la consommation, on la cible beaucoup, autant au niveau des publicitaires, mais au niveau familial, c'est encore elles qui ont tout ça, là? C'est fort, oui. Ça, comme pression.
Oui, c'est quand même, c'est beaucoup de poids qui leur repose sur les épaules. Par contre, chaque ménage est différent, tout dépendamment si c'est une femme monoparentale, si dans la relation de couple, aussi pour les femmes qui sont en couple, comment est géré l'argent. Donc ça va beaucoup, ça va faire des différences d'une femme à l'autre. Alors okay. C'est sûr qu'on peut pas mettre toutes les femmes là dans le même panier pour l'instant, mais c'est en fait de voir selon sa situation, donc selon la situation de chacune, qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour elle pour diminuer le stress, pour aller chercher de l'aide. Donc, si elle ne peut pas avoir de l'aide au niveau de ses amis, de sa famille, il y a des ressources qui existent qui peuvent les aider.
Et au niveau des publicitaires, parce qu'elles sont tout le temps celles qu'on dit qu'elles consomment le plus, dans les chiffres, elles sont là, les magasineuses, les femmes, et puis on continue à faire des publicités uniquement pour elles. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de travailler ça aussi?
C'est sûr que c'est quelque chose sur quoi on ne s'est pas penché à travers notre guide de survie, mais vous avez bien raison en disant que les femmes sont les plus sollicitées au niveau de tous les achats. Puis, il y a des statistiques qui disent et qui confirment que les décisions au niveau des achats sont souvent faites par les femmes parce qu'elles connaissent le budget, elles savent ce qu'elles peuvent dépenser, combien elles peuvent dépenser. Alors, c'est sûr que ça fait beaucoup de pression sur la femme, bien sûr.
Est-ce qu'elles dépensent en temps réel pour elles? Ou c'est surtout pour les autres?
Surtout pour les autres.
Aha.
Les activités des enfants, les loisirs, mais aussi tout ce qui est essentiel, surtout au bon fonctionnement. Donc, on voit que sur une échelle, là, c'est elles qui vont, elles vont se mettre en dernier souvent. Et elles vont faire passer beaucoup de choses avant leurs besoins à elles.
Alors, en terminant, parce que votre guide est fort intéressant, pouvez-vous peut-être donner l'adresse Internet pour que ces femmes puissent en bénéficier?
Oui, alors il est présent sur notre site web au www.felaurentide.org. Alors, il y a aussi beaucoup d'informations disponibles sur notre page Facebook du Fonds d'emprunt des Laurentides.
Merci beaucoup, Mme Boyer.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Et qu'en est-il, mesdames, messieurs, des finances personnelles de nos aînés? Danny Prudhomme, directeur général de la FADOC, est avec nous aujourd'hui. Bonjour, monsieur Prudhomme.
Bonjour à vous.
Vous allez bien?
Ça va bien, merci vous-même.
Oui. Alors justement, comment se passe le rapport des aînés avec l'argent? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile au jour le jour? Racontez-nous.
Ben, écoutez, je pense qu'il y a plusieurs choses de ce côté-là. Dans un premier temps, on sait que si on regarde les dernières statistiques, environ 40-45% de nos aînés reçoivent ce qu'on appelle le supplément de revenu garanti.
Mm-hmm.
Donc, ça veut dire qu'ils ont un seuil de revenu relativement faible. Soit on dit qu'un aîné sur deux a un, et on parle 65 ans et plus évidemment, là, a un revenu annuel de moins de 20 000. Donc ça, c'est quand même préoccupant. De l'autre côté, on regarde les 55-64 ans et des derniers rapports qu'on a vus, une bonne partie, les deux tiers, croient qu'ils n'auront pas assez d'économie à la retraite avec tout ce qui se passe actuellement aujourd'hui, l'économie, les hausses de différents services. Donc, c'est préoccupant.
Oui, et puis d'autant plus que ceux qui sont à la retraite en ce moment, il y en a beaucoup qui retournent travailler parce qu'ils n'y arrivent pas, hein?
Oui, tout à fait. Donc, on sait que de nos aînés, il y a aujourd'hui à peu près 60% qui n'ont pas de régime de retraite, là, qu'on appelle là, les régimes complémentaires de retraite. Donc, qui ont soit mis des avoirs de côté, reçoivent la régie des rentes, quelques REER, des choses comme ça. Et oui, avec les augmentations rapides de plein de choses, dont les taxes foncières, dont l'Hydro-Québec, dont différents autres services, font que les aînés, après une dizaine d'années, n'arrivent plus. Donc, retournent au travail.
Ça, c'est ce qu'on montre pas. Et souvent, on dit ils ont envie de retourner sur le marché du travail parce qu'ils s'ennuient. Mais ça, c'est souvent... Moi, j'ai parlé avec quelques personnes, ils me disaient, mais c'est pas parce que j'ai envie de retourner, c'est que, Sophie, je n'y arrive pas. Et ça, c'est assez triste, c'est assez déplorable.
Oui, tout à fait. Dans un premier temps et dans un deuxième temps, ce qu'on voit, ceux qui retournent au travail, on sait que les femmes vivent plus longtemps. Encore aujourd'hui. Mm-hmm. Et malheureusement, si on recule, il y a plusieurs années, ces femmes-là étaient souvent à la maison. Donc, travaillaient très fort, mais n'avaient pas de salaire. Mm-hmm. Donc, n'ont pas accumulé la régie des rentes. Donc, quand leur conjoint décède, ils se retrouvent avec des revenus encore de plus en plus diminués dans leur cas. Ce qui fait que, oui, dans bon nombre de cas, elles vont aller sur le marché du travail.
Et elles vivent pour sortir de la pauvreté, finalement.
Oui, tout à fait.
Et comme si ce n'était pas assez, il y a cette clientèle, c'est absolument déplorable. Il y a des gens qui s'en font frauder et il y a même des abus des proches. Et ça, c'est vrai, ça.
Oui, tout à fait. Si on regarde au niveau des abus et des fraudes et de l'intimidation, parce que c'est quelque chose qui ressort de plus en plus, donc les gens vont se faire abuser, frauder, intimider pour aller chercher leurs biens, pour aller avoir un certain contrôle. C'est très difficile parce que c'est quelque chose de tabou qu'on parle pas beaucoup. De notre côté, on a un programme où on a sensibilisé à peu près 40 000 personnes en 2 ans. Avec la Sûreté du Québec et le C3S Cavendish, justement pour donner des idées à savoir qui peut se faire abuser, frauder, quel est le profil type de quelqu'un comme ça, quel est le profil type de quelqu'un qui abuse et qui fraude, quelles sont les interventions qu'on peut faire, quelles sont les ressources qu'on a. Et je pense que les gens sont relativement démunis face à ça actuellement. Là.
Et ça se fait, vous êtes témoin de ça, ça se fait encore pas mal tous les jours, des gens qui se font abuser?
Écoutez, je dirais malheureusement de façon régulière. Souvent, les gens, on se rend compte que même si ce n'est qu'une fois qu'on a fait quelque chose, il y a des gens qui s'en rendent pas compte. Il y a des gens qui n'ont pas réalisé que c'était un abus face à un aîné qu'ils ont fait. Je parle pas évidemment de prendre de l'argent, là, ça on est conscient, je pense, mais je parle surtout d'un abus côté soit psychologique, physique. Si vous savez, serrer un bras à quelqu'un, un aîné, c'est pas on n'a pas besoin de le corriger comme ça, là. C'est pas du tout la façon de faire. Donc ça, c'est vraiment essayer de prendre le dessus en contrôlant physiquement. Donc malheureusement, il y a des personnes qui ne s'en rendent pas compte et qui le font.
Au niveau des questions de procuration, est-ce que c'est assez clair? Est-ce que vous expliquez ça aux aînés?
Écoutez, en fait, nous, on envoie vis-à-vis les bonnes ressources, donc soit contacter des notaires, soit contacter le curateur public, parce qu'on peut avoir de l'information de ce côté-là. C'est vraiment pas clair. Parce que vous savez, il y a procuration, mais il y a mandat d'inaptitude. Les gens vont souvent confondre les deux. Une procuration, on peut avoir une période déterminée. On peut décider d'y mettre fin. Ça peut être temporaire. C'est quand même quelque chose de relativement compliqué. C'est effectivement un document du juridique. Ça donne un pouvoir à quelqu'un de gérer pour une période donnée ou de façon temporaire nos avoirs, nous aider parce qu'on a une incapacité qui peut être temporaire, comme je l'ai dit. J'aime le dire parce que c'est quelque chose qu'on peut arrêter dans le temps, là. Ou pas. Ça peut être de façon permanente et là, on pourrait s'en aller plus vers un mandat d'inaptitude éventuellement lorsqu'on perd de plus en plus de capacité. Ça, c'est vraiment un dédale compliqué pour les gens, puis on s'y connaît pas bien.
Et il vaut mieux le faire plus jeune, évidemment, parce que les gens, ils pensent pas. Est-ce qu'on peut le faire plus jeune? Se dire, six mois à tel âge ou bien il m'arrivait quelque chose, est-ce qu'on peut aller faire voir le notaire puis dire, je m'en occupe tout de suite avant que ça aille mal?
Oui, tout à fait. Donc, pour faire des documents comme ça, entre autres, on doit être mentalement capable de le faire à le moment où on le fait, donc où on signe la procuration. Et oui, il vaut toujours mieux prévenir que guérir, parce que si on n'en faisait pas, ce serait la curatelle publique qui le ferait pour nous. Mmh. Pas que c'est vilain, là, je veux dire, ils vont faire le service. Mais ce que je veux dire, c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qu'on connaît qui pourrait nous épauler. Et il faut aussi en parler à cette personne-là, bien évidemment, parce que je pense pas que c'est drôle non plus du jour au lendemain se retrouver à si on veut gérer les choses de quelqu'un qu'on s'attendait pas. Puis, ben, je pense que oui, ça va dans la planification financière.
Alors, en terminant, parlez-moi du programme Aîné à viser.
Oui, ben en fait, c'est un programme qui se veut avec trois partenaires, incluant la FADOC, là, donc le C3S Cavendish et la Sûreté du Québec. Un programme qui se veut de sensibilisation pour démystifier les abus et les fraudes envers les aînés, mm-hmm. pour essayer de contrer justement les abus et les fraudes, parce qu'on pense que plus on en connaît à ce sujet, plus on va être en mesure soit de prévenir, soit de prendre action si on voit quelqu'un à qui ça arrive. Et donc, en donnant les ressources, c'est avec des vidéos, des animateurs. Et je vous dirais qu'à pratiquement chacune des séances où il y a un policier avec nous, il y a des gens qui vont voir le policier à la fin des séances pour lui parler. Évidemment, on ne sait pas de quoi il lui parle parce que c'est confidentiel. Mais les policiers nous disent qu'en général, c'est soit eux ou quelqu'un d'autre qui connaissent, qui est en train de possiblement subir quelque chose qu'on leur a montré.
Dénonciation, c'est jamais facile, mais quand on est aîné, est-ce que c'est, vous trouvez que, vous m'avez dit tout à l'heure, ils n'en parlent pas beaucoup, est-ce que la parole est plus facile, plus on en parle, c'est comment, là?
Ben, en fait, je vous dirais, moi, je compare ça à, si on veut, la révolution. Vous savez, il y a à peu près 50, 60 ans, côté sexuel, on parlait pas grand-chose, c'était tabou. Aujourd'hui, mm-hmm. on a éduqué, on connaît mieux, donc on en parle plus ouvertement. Je dirais que présentement, les abus et les fraudes, c'est tabou. On n'en parle pas, c'est honteux, on a peur de représailles. Donc, il faut démystifier ça pour que les gens sortent du noir et essayer de contrer ce fléau-là, effectivement.
Est-ce que, M. Prudhomme, c'est encore vrai que les abus et les fraudes sont souvent faits par les proches?
Malheureusement, oui, ça va être quelqu'un qu'on connaît. Donc, c'est pas nécessairement de la famille, mais oui, la famille y contribue aussi. Comme je vous disais, pas toujours consciemment, malheureusement. Évidemment, quand c'est de l'argent qu'on soutire, là, je pense que c'est conscient. Mais quand on parle d'abus, c'est pas nécessairement conscient. L'intimidation, non plus. Vous savez, ça peut être un regard, un geste, une parole. Donc, c'est tout simplement de traiter d'égal à égal quand on parle avec un aîné. Et comme ils sont plus vulnérables, souvent, les gens vont vouloir prendre le dessus.
Merci beaucoup, Monsieur Prudhomme.
Merci à vous.
Merci. Notre coup de chapeau aujourd'hui aux questions de Sophie, Madame Céline Orvoine, responsable des communications et du programme Éconologie de la CEF Lanaudière. Bonjour, Madame Orvoine.
Oui, bonjour.
Vous allez bien?
Merci, ça me fait plaisir d'être parmi vous.
Mais oui, on est très contents de vous accueillir. Alors, l'Association corporative d'économie familiale, ça existe depuis quand?
En fait, excusez-moi de vous reprendre, c'est l'Association coopérative d'économie familiale. Mmh. En fait, ça existe depuis le début des années 70. C'est un mouvement qui est né plus dans le coin de Montréal et qui s'est étendu à travers le Québec via soit des organisations régionales ou des organisations plus locales.
Mmh. Alors, la mission première, c'est quoi?
En fait, c'est la défense de droits des consommateurs et l'éducation financière.
Et vous offrez vos services à qui?
Je vous dirais à la population en général, parce qu'on est tous des consommateurs.
Oui.
Donc, quand on défend les droits auprès des ministères, tout ça, ça représente vraiment tous les consommateurs du Québec. Quand on intervient plus sous forme de première ligne ou d'atelier solution à l'endettement ou consultation budgétaire, je vous dirais que c'est plus les ménages à budget modeste ou classe moyenne, là, aux prises avec des problématiques d'endettement.
Et vous donnez des trucs aussi, parce que je suis allée visiter votre site Internet. Truc très intéressant, ça va autant de quand on fait notre marché que les compteurs intelligents. Vous essayez de faire en sorte que les gens ne se fassent pas avoir.
Oui, tout à fait. En fait, on part toujours du principe que dans un budget, il y a plusieurs postes de dépenses, que ce soit le logement, l'électricité, l'alimentation, les assurances, tout ça. Donc, ça, c'est des dossiers qu'on travaille à tout point de vue.
Mmh. Et si je vous demandais, par exemple, dans le dossier alimentation et puis cellulaire, parce que vous en avez plusieurs, mais quelques petits trucs, on va y aller avec alimentation, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, puis après on ira dans le cellulaire.
Mmh. Ben, en fait, au niveau de l'alimentation, c'est sûr que déjà de connaître la politique d'exactitude des prix, ça fait du consommateur de quelqu'un d'avisé. Mmh. En fait, cette politique-là date depuis qu'on étiquette plus les produits unitairement, juste sur la tablette. Si, par exemple, le produit est étiqueté sur la tablette à 2,50, puis on arrive à la caisse, il est 3,50. Donc, normalement, le marchand doit nous remettre le produit gratuitement.
OK.
Et ça, c'est rare que les gens le savent.
Et je crois que vous avez une petite carte qu'on peut mettre dans notre portefeuille pour montrer ça?
Oui, tout à fait, ça existe.
Oui, j'ai regardé ça.
Oui, oui, tout à fait.
Ce qui fait qu'en somme, on n'est pas obligé de dépenser de la salive et des paroles.
Oui, c'est ça, et de se battre. Oui, tout à fait, tout à fait.
Et je disais aussi qu'au niveau de l'alimentation, vous conseillez, c'est bête, mais c'est vrai, là, de manger avant.
Oui, tout à fait.
De faire le marché.
Aller à l'épicerie le ventre creux parce que là, on a envie d'acheter toutes sortes de gourmandises et des choses qui sont peut-être moins bonnes pour la santé. On y va avec nos impulsions du moment. Mm-hmm. Tandis que quand on est bien structuré avec un budget, qu'on a fait notre budget en conséquence de ce qu'il y avait comme reste dans le frigo, des spéciaux dans le circulaire, puis on se monte une bonne liste d'épiceries et surtout qu'on la respecte. Donc, ça peut facilement économiser plusieurs dollars là, à la fin de la facture.
Alors, je disais aussi faire le marché aux 15 jours. Pourquoi aux 15 jours?
Ben parce que normalement, on peut plus se structurer, on peut voir venir. Parce qu'à chaque fois qu'on va à l'épicerie, je sais pas si vous avez remarqué, quand on veut juste aller chercher du lait...
On arrive avec 3 sacs.
Ben oui, parce que le lait, ils l'ont mis dans le fond du magasin, puis on est passé à travers plein de rangées, puis là, on a attrapé ceci, cela, et qu'on n'avait pas forcément besoin.
OK, donc au 15 jours, c'est mieux.
En se concentrant, oui, tout à fait. Et ça se base beaucoup sur les budgets modestes, moyens, mm-hmm. en tenant compte que les gens qui ont des petits revenus vont avoir un revenu le premier, et ensuite vont souvent avoir un revenu plus dans le bout du 20 de chaque mois en lien avec les allocations familiales. Donc, ça fait 2 plus grosses rentrées d'argent là, dans le mois.
Pour les cellulaires, vos trucs que vous nous donnez?
Ben c'est de magasiner. En fait, souvent, on se fait expliquer tous les avantages et qu'on devrait avoir ceci et cela. Et c'est plus nous qui identifions nos besoins, mais le vendeur qui nous dit quels besoins on a. Et ça, il faut être très, très critique à ce niveau-là, parce que la facture monte très, très vite. Hein. Nous, on l'a vu, là, en 15 ans, quand on fait une consultation budgétaire, puis on arrive à la ligne télécom. Là-dedans, on va rentrer le téléphone fixe, l'Internet, la télévision et les cellulaires. Avant, on pouvait les familles s'en tiraient autour de 50 $ par mois, là, puis ils avaient un bon forfait. Mm-hmm. Maintenant, ça tourne autour de 200 $ par mois. Merci. Donc, ce poste de dépense-là a explosé là, dans les dernières années.
Et au niveau, c'est intéressant, je regardais aussi vos suggestions au niveau de, par exemple, de la coiffure, dentiste. Vous dites, et ça, c'est les gens vont être contents d'entendre ça, d'aller voir les écoles.
Oui, tout à fait. Ça, il y en a plein de ressources comme ça, mais chaque localité a ses propres ressources. Je vous dirais ici, à Joliette, on a entre autres une école de boucherie. Mmh. Ben, c'est génial parce que, oui, c'est ouvert juste le jeudi, vendredi, mais c'est les coupes du moment, c'est les produits. On sait que les produits sont frais. Il y a une école de pâtisserie aussi. Donc, une semaine, c'est des éclairs, une semaine, c'est des tartes, une semaine, c'est du pain. Puis, ça permet d'encourager ces élèves-là, tout à fait.
Alors, on y va au niveau des dentistes aussi, parce que c'est pas tout le monde, de nos jours, qui peuvent se payer les assurances au niveau dentaire. Et il y a aussi des écoles au niveau de, évidemment, mais on peut avoir accès.
Oui, en fait, au niveau du dentiste, c'est à l'Université de Montréal qu'ils offrent ce service-là. Mm-hmm. C'est sûr qu'il ne faut pas avoir une très grosse urgence, là, parce que sinon, je pense qu'on va avoir mal aux dents longtemps. Les places sont convoitées, ils n'en ont pas tant que ça. Là, mais quand on peut se faufiler dans ce genre d'alternative-là, c'est très, très intéressant. Comme en ce moment, plus vers Montréal et la Couronne, il y a un monsieur qui s'appelle le bonhomme à lunettes,
okay,
qui lui offre des monture à prix ridicule, là, je veux dire. Donc, pour les gens qui ont de la difficulté et qui se privent de se payer des lunettes parce que c'est trop cher, ben ça vaut la peine.
Merci beaucoup, Mme Orvoine. Merci.
Ben, ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
Bonne journée à vous. Alors, mesdames, messieurs, vous pourrez consulter. On va mettre le lien de l'émission. Et puis, évidemment, il y aura le lien des sites web de nos invités d'aujourd'hui. Un grand merci à notre équipe, Christiane Campagna à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté à la réalisation de l'émission et Claudia Benoît au web. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames, messieurs. Bye bye.